qui justifiera les exemples que j'ai cru pouvoir vous donner en les tirant de l'Ancien Testament pour illustrer ces différents choix devant lesquels un croyant d'aujourd'hui peut être placé. C'est au chapitre 15 de l'Épître aux Romains que vous verrez que tout ce qui est dans l'Ancien Testament a été écrit d'avance pour notre instruction. Je lis au verset 4 du chapitre 15 de cet Épître de Paul aux Romains. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ces choses écrites d'avance forment ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament, la loi, les psaumes et les prophètes. Je disais donc que dans cette retraite, nous nous sommes servis de la vie de plusieurs hommes de l'Ancien Testament pour illustrer ces différents choix devant lesquels un croyant d'aujourd'hui peut être placé. Alors, nous avons vu ce choix de Lot dans le livre de la Genèse, ce neveu d'Abraham qui avait été instruit par son oncle dans la foi de son oncle. On peut dire qu'en quelque sorte, il avait la foi de son oncle. Il avait les connaissances de son oncle. Mais hélas, son cœur n'appartenait pas, comme le cœur de son oncle, entièrement au Seigneur. Et quand il s'est trouvé en difficulté avec cet oncle à cause de leur grand bien, et que Abraham a dit à son neveu, écoute, il n'est pas question qu'il y ait dispute entre mes bergers et tes bergers, il est préférable de nous séparer dans la paix. Alors, je te laisse choisir. Genèse 13, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et verset 11 du chapitre 13, il est dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et il y a ce petit verset qui suit, qui est très révélateur. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Et cela, ça se savait. Lot ne considère pas qu'il va emmener sa famille dans un milieu qui pourrait corrompre ses enfants. Il n'a vu que son intérêt matériel et il n'a pas pensé aux siens et aux conséquences de cet environnement. Et vous remarquerez, si vous lisez cela avec attention, il dresse sa tente d'abord près de Sodome, mais dans le chapitre suivant, il est dit que Lot habitait dans Sodome, chapitre 14. Et c'est ainsi qu'il a été fait captif lorsqu'il y eut une guerre contre le roi de Sodome, délivré de nouveau par son oncle Abraham, il n'a pas compris qu'il n'avait pas à retourner à Sodome. Maintenant qu'il est à nouveau libre, il n'a qu'une pensée, c'est de retourner à Sodome avec le roi de Sodome. Et finalement, qu'est-ce qu'il arrive quand on est un homme quand même pieux, quand on est un homme assez remarquable? Eh bien, on le nomme dans la municipalité de Sodome. De sorte que, au chapitre 19e, vous voyez que Lot a accepté des charges dans la ville de Sodome. Il était devenu, au fond, un magistrat dans cette ville de Sodome, de sorte qu'au chapitre 19e, quand les anges viennent pour détruire Sodome, il est dit qu'au temps du soir, ils arrivent aux portes de Sodome, et Lot se trouvait justement aux portes de Sodome, c'est-à-dire ce qu'on appelle les portes dans ces villes d'Orient. C'est là que siège le gouvernement. De sorte que Lot était devenu un des gouverneurs de Sodome. Et quelle influence avait-il dans ce gouvernement-là? Vous l'avez vu, je l'espère, ce matin, dans le chapitre 2 de la deuxième de Pierre. Il y a donc là un petit renseignement. Il est dit que Dieu n'a pas épargné, au verset 5, l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir sur le mont le déluge. Il a condamné aussi à la destruction et réduisit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Mais il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et si vous lisez le chapitre 19 de ce livre de la Genèse, vous voyez qu'effectivement, les anges n'ont pas pu détruire Sodome avant que Lot n'en sorte. Mais pour le faire sortir de Sodome, les anges ont dû presque user de la force. Ils lui disent à plusieurs reprises d'appeler les siens, ses filles, ses gendres, sa femme, pour sortir de Sodome, car ils avertissent Lot que Dieu a décidé de détruire cette ville. Et Lot hésite. Et quand il croit parler à ses gendres se moquent de lui. Et quand il s'en va finalement, eh bien, sa femme, comme vous le savez, a regardé en arrière et a été changée en statue de sel. De sorte que Lot, par son choix inconsidéré, a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, deux de ses filles en tout cas, ses gendres, sa femme, et il a été sauvé lui-même comme au travers du feu. Dieu a eu pitié de lui, mais ce n'est pas du tout glorieux. Eh bien, mes amis, vous pouvez faire votre choix en vous laissant conduire par les regards de vos yeux, mais j'aimerais que vous ayez appris que ce ne sont pas les choses qui se voient et qui doivent compter pour vous, mais les choses invisibles et qui sont éternelles. Et souvenez-vous que quand vous avez un choix à faire, ce choix peut avoir des circonstances, sur vos enfants, peut avoir vraiment une influence sur vos enfants, et gardez-vous de placer vos enfants dans un milieu qui pourrait les corrompre. Alors, au lieu de tourmenter toujours votre âme et d'avoir un témoignage au fond purement négatif, vous aurez un témoignage de louange. J'ai parlé ensuite du choix d'Abraham. Abraham est vraiment un exemple remarquable. Abraham s'en remet à Dieu. Quand Dieu parle, il obéit. Certes, vous l'avez vu, il lui arrive encore d'avoir des fautes, mais il s'en humilie et il persévère avec le Seigneur de telle manière que quand vous relirez ces chapitres que nous avons considérés sur la vie d'Abraham et ses différentes épreuves, vous vous souviendrez que dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, au verset 23e, Abraham a été appelé ami de Dieu. Voilà ce qui arrive quand on s'abandonne à Dieu et qu'on se laisse faire par Dieu. Nous pouvons devenir ce qu'Abraham a été, un ami de Dieu. Il a préféré Dieu au monde et aux facilités que pouvait lui offrir le monde. Et c'est quelque chose d'être appelé ami de Dieu et vivre dans l'amitié de Dieu, le souverain, le tout-puissant. Je lis ce verset dans l'épître de Jacques, c'est au chapitre 2, le verset 23e. Il est dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Dans le chapitre 4 de Jacques, quand il est parlé de l'amitié que l'on peut avoir avec le monde, Jacques nous dit que cette amitié-là, c'est un adultère spirituel. Verset 4 du chapitre 4 de Jacques. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, voilà votre choix quotidien. Voulez-vous cultiver votre amitié avec le monde? Sachez que vous devenez ennemi de Dieu. Mais si vous cultivez votre amitié avec Dieu, eh bien, vous en aurez le bénéfice. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas éprouvé, mais justement, Dieu pourra se servir de vous pour être un témoignage à des multitudes de générations. C'est cela que nous apprend les choses. Que nous apprennent les choix d'Abraham. Je vous ai parlé ensuite de Joseph, pour illustrer aussi nos choix quotidiens. On dit toujours, oh mais n'est-ce pas, c'est beaucoup plus difficile pour nous de vivre que pour ces gens-là d'autrefois. Eh bien non, les tentations étaient exactement les mêmes, et je vous soulignerai encore cette tentation de Joseph qui était réellement quotidienne. Et c'était chaque jour qu'il devait choisir. Est-ce que je vais céder à la femme de Potiphar ou est-ce que je tiendrai? Vous voyez, je relis parce que même si je me répète, c'est pour mieux faire entrer ces leçons dans vos cœurs. Si je relis ces textes du 39 de la Genèse, c'est qu'il me semble bien important aujourd'hui. Verset 7. Ce Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été si éprouvé, le voici maintenant qui est chef dans la maison de Potiphar, qui lui fait confiance. Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlât, une fois par semaine, tous les jours, hein, c'est quotidien, hein, quoi qu'elle parlât, tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Et puis, vous connaissez la suite, j'abrège. Mes amis, souvenez-vous de Joseph. Et souvenez-vous qu'il n'avait pas de Bible, qu'il n'avait pas l'enseignement de Jésus que vous avez. Et pourtant, solitaire, il a su rester fidèle. Et si vous lisez le psaume 105e, vous apprendrez ceci au sujet de Joseph, que lorsque la famine fut sur le pays, Dieu lui-même envoya devant les fils d'Israël un homme, Joseph. Nous savons qu'il a été vendu par ses frères, mais qui était au-dessus des machinations de ses frères? C'était Dieu lui-même. Il y a des choses que Dieu permet. Ce n'est pas qu'il voulait que ses frères le vendent, mais il a fait tourner en bien le mal que ses frères méditaient contre Joseph. C'est pourquoi dans ce psaume 105, il est dit que le Seigneur envoya devant les fils d'Israël un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce que Dieu avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, c'est le pharaon, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Donc, quand Dieu a de l'ambition pour un homme, il trouve parfois bon de le faire passer par de grandes épreuves. Et au lieu de nous révolter contre les épreuves que le Seigneur nous permet de traverser et de voir de l'injustice en Dieu, puissions-nous nous dire « Tu m'éprouves, Seigneur, mais c'est la preuve que tu m'aimes. Je crois que tu m'aimes, tu es en train de t'occuper de moi. Eh bien, donne-moi de ne rien perdre des leçons que tu es en train de m'apprendre et qui vont peut-être me profiter dans une situation future. » Alors, quand vous avez cette pensée, vous vous trouvez réconcilié avec tous les événements qui peuvent vous arriver et vous êtes dans la paix pouvant vous dire « Qui dit une chose, elle arrive, si le Seigneur ne l'a pas permis. » N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les mots? Elle est bien, et continuant cette citation du chapitre 3 des Lamentations de Jérémie, vous verrez qu'il est dit que si Dieu afflige, il a aussi compassion, et que ce n'est jamais volontiers qu'il afflige et qu'il contriste les fils des hommes. Mais souvenez-vous que le but de Dieu dans nos épreuves, c'est toujours de nous faire du bien. Il n'y a jamais de colère dans les châtiments que Dieu permet. C'est une discipline qu'il emploie pour former ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Que je doive participer dans ma vie à cette discipline du Seigneur m'assure que je suis son fils et que je ne suis pas un bâtard. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 de ce livre. Maintenant, le quatrième choix dont nous vous avons parlé, c'est celui de Moïse, Et vous relirez ce livre de l'Exode, qui est donc le deuxième livre de la Bible, et vous verrez comment Moïse, étant devenu grand, refusa, comme le dit aussi le chapitre 11 de cet épître aux Hébreux, de devenir le fils de la fille du Pharaon, et comment il préféra vivre dans l'opprobre avec son peuple pour chercher à le délivrer. Je lis dans Hébreux 11, verset 23, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ô mes bien-aimés, je voudrais que vous puissiez partir d'ici, oublier ce que je suis, mais n'avoir plus Dieu que pour celui qui est invisible. Que le Seigneur se révèle à vous et que vous puissiez quitter ce lieu voyons celui qui est invisible. Comme Moïse, s'il a pu supporter tout ce qu'il a enduré en conduisant ce peuple d'Israël, c'est que ses yeux étaient fixés sur celui qui était invisible. Et de lui aussi, il sera dit une chose que vous pourriez éprouver dans votre vie, quel qu'ait été votre passé. Il est dit de ce Moïse au chapitre 33 de l'Exode, c'est pourquoi je vous invite tant à lire l'Écriture. Il est dit que Moïse parlait avec le Seigneur au verset 11 du chapitre 33 de l'Exode. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son âme. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son âme. Donc, ses choix, choix de la foi, qui nous ont occupés, nous amènent à une intimité de plus en plus grande avec le Seigneur, et je vous souhaite que vous puissiez suivre aussi bien l'exemple d'Abraham que l'exemple de Joseph et que l'exemple de Moïse, et que, considérant Lot, vous ne vous disiez pas « Oh bien, Lot, il a quand même été sauvé. Il a quand même été sauvé. » Oui, mais comme au travers du feu. Et son témoignage final a été désastreux. Il a fini dans l'inceste avec ses deux filles qui l'ont enivré. Voilà des choses que l'Écriture nous enseigne. Ces hommes, on connaît maintenant leur vie, et leur vie nous a été rappelé pour nous servir d'exemple, pour que nous soyons instruits. Et je voudrais terminer en vous mettant en garde maintenant contre le péché de 4 hommes. 4 hommes importants dans l'Écriture, puisqu'il s'agit d'un prophète, et vous pourrez lire le quatrième livre de la Bible, le livre des Nombres, chapitre 22e à 24, où vous trouverez là un homme appelé Balaam, qui était prophète. Et le peuple d'Israël, avançant dans sa conquête vers le pays de Canaan, provoque une crainte chez les Moabites. Et le roi de Moab envoie une délégation à ce prophète Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël afin d'avoir la victoire sur Israël. Balaam est donc un prophète. Il connaît les pensées de Dieu au sujet du peuple d'Israël. Il sait que Dieu a béni ce peuple. Mais quand la délégation du roi païen arrive auprès de lui, au lieu de répondre immédiatement, c'est impossible. Je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Qu'est-ce qu'il dit à la délégation? Il dit, eh bien, écoutez, avant de répondre à votre maître, il faut que j'aie eu une nuit de prière. Je vais prier pour savoir si je peux venir avec vous. Est-ce que c'était sage? Est-ce qu'il ne savait pas quelle était la volonté de Dieu? Bien sûr qu'il la savait. Mais il veut montrer qu'il est vraiment dépendant de Dieu, alors il fera une nuit de prière. Et dans cette première nuit de prière, Dieu lui dit, tu n'iras pas avec ces hommes. Donc, il a la confirmation que Israël est un peuple béni et que lui ne peut pas être employé pour le maudire. Mais il voit la délégation repartir et il a un petit serrement de cœur parce que on ne lui donne pas la récompense. Et quand on est prophète, quelquefois, on aurait peut-être besoin aussi d'un peu d'argent. Ce n'est pas méprisable. De sorte que Balak, quand il voit sa délégation revenir, se dit simplement ceci. Je ne lui ai pas envoyé des gens assez importants. Et je n'ai pas assez donné pour qu'il puisse venir. Alors, il envoie une délégation plus importante auprès de Balaam, qui se sent quand même un peu honoré. Il devient quelqu'un, ce petit prophète, et à nouveau, on lui demande de venir pour maudire Israël. Que fera-t-il? Il dit, eh bien, écoutez, je vais faire encore une nuit de prière. Et je verrai si Dieu a quelque chose de plus à me dire. Et il fait sa nuit de prière, et qu'est-ce qui arrive? Dieu lui dit, va. Ça peut vous arriver, on ne se moque pas de Dieu. Vous avez la connaissance de la volonté de Dieu, vous savez ce qu'il veut, mais vous voulez autre chose. Et alors vous allez à Dieu, vous lui faites la fille, si j'osais dire ainsi. Seigneur, est-ce que je ne peux pas? Alors va. Mais Dieu lui montre bien qu'il n'est pas dans ce chemin, puisque Balaam, sur son âne, sur son ânesse plutôt, suivant la délégation de Balak, eh bien, voilà Balaam qui ne voit pas l'ange de l'Éternel, qui est là avec une épée nue et qui l'attend pour le transpercer. Donc Dieu n'est pas avec lui, Dieu est contre lui. Mais lui ne voit pas, il est aveugle. Vous savez, quand on est pris par l'amour du bien, il y a comme un aveuglement et on croit que tout est bien, que tout est bon. L'amour de l'argent, c'est une racine de toutes sortes de maux, est-il dit. Et cela peut aveugler même un serviteur de Dieu. De sorte que la nef, elle voit l'ange, mais Balaam ne voit pas l'ange. Les animaux ont un sens, les animaux voient. Et c'est à cause de cette ânesse que Balaam est épargné. L'ânesse fait un détour pour éviter l'ange. Mais l'ange se place ensuite dans un chemin creux, de telle manière que Balaam ne pourra pas passer sans être transpercé. Alors, il y a d'abord l'ânesse qui va un peu contre le mur, le pauvre pied de Balaam est coincé, et il commence à battre son ânesse, à l'injurier, et finalement, quand l'ânesse voit qu'elle ne peut pas aller plus loin sans ça, ça sera la mort de son maître, elle s'asseye. Alors, Balaam la roue de coups. Et tout à coup, l'ânesse lui parle. C'est drôle. Vous allez rire. Quelle légende, une ânesse qui parle. Oui, un coq a chanté pour réveiller la conscience de Pierre. Dieu peut bien faire parler une ânesse pour reprendre la folie d'un prophète. Et c'est tellement beau ce que l'ânesse dit à Balaam. L'ânesse vit l'ange, verset 27 de l'Éternel, et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. » C'est une ânesse qui se moque d'un prophète. « Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerai à l'instant. » Il y en a une épée là qui est tout près de lui, il ne la voit pas. L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse ?» Comment dirais-je, ne suis pas ta femme. « Ne suis-je pas ton ânesse ?» Que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi ? Et il répondit, « Non. » Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » Et vous direz, « Mais alors pourquoi est-ce que Dieu lui a dit va ? » Eh bien, si vous voulez faire votre volonté, le Seigneur vous laissera. Allez, mais vous en aurez les conséquences. Et Dieu montre bien à Balaam qu'il n'a pas été dans sa prière, vraiment. Et puis, finalement, Balaam doit aller, mais Dieu lui dit, tu ne pourras dire que ce que je mettrai dans ta bouche. Et ainsi, vous voyez un homme qui est le prophète, qui sera la bouche du Seigneur, qui est payé par Balaam, va par Balak pour maudire Israël, et qui se trouve obligé de bénir. Au lieu de maudire, il bénit, parce que c'est la parole de Dieu qui passe quand même par sa bouche. Et alors, quand Balak est furieux contre Balaam, qui lui dit, je t'ai payé pour maudire, et voilà, tu l'as béni, que fait Balaam? Et c'est ça qui est diabolique. Comme il a reçu de l'argent, comme il voit qu'il ne peut pas maudire Israël, il lui dit, il y a une chose que tu pourrais faire. Invite les filles de Moab à faire un festin avec les fils d'Israël. Et c'est ainsi que ces filles détourneront les Israélites qui attireront sur eux la colère de Dieu et Dieu les punira. Et c'est ce qui est arrivé. Le conseil de Balaam. Mais ce Balaam y a perdu finalement la vie. C'est un péché qui menait à la mort. Plus tard, quand les troupes d'Israël arrivèrent dans la ville où était Balaam, nous apprenons qu'ils le firent mourir. Nombre, chapitre 31, verset 18. On ne se moque pas de Dieu quand on est son prophète. Second exemple, Élie, sacrificateur. Il porte, c'est pas l'Élie dont je vous ai parlé hier, le prophète, c'est Élie sans E, que vous trouvez dans le chapitre 1er à 4, dans le chapitre 1er à 4 du livre de Samuel. Vous voyez qu'il y a dans toute l'écriture des leçons à apprendre. Élie est le sacrificateur à Silo. Il porte les vêtements sacerdotaux. Il doit donc porter le peuple devant le Seigneur. intercéder pour le peuple. Mais voilà qu'il a des fils, qu'il a établi dans la sacrificature. Et il est dit au chapitre 2 du livre de Samuel, du premier livre, que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, et pourtant ils étaient sacrificateurs. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous voyez, on peut être prêtre, on peut être pasteur, on peut être théologien, et ne pas connaître l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offre un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant dans sa main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans la marmite et dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Ils s'enrichissaient donc par le peuple. Et puis, non seulement cela, je ne m'en vais pas lire tout ce qui est dit, mais il est dit que ces hommes couchaient avec les femmes à la porte du temple. Et Élie, leur père, savait cela. Élie était fort avancé en âge, verset 22 du chapitre 3. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Et puis, vous apprendrez qu'un prophète vient pour avertir Élie et qu'il lui fait ce reproche. « Tu as estimé tes fils plus que Dieu. » Eh bien, gardez-vous, frères et sœurs, si vous avez des enfants, de faire de vos enfants des idoles et de finalement admettre une vie chez vos enfants qui n'est pas celle du Seigneur. Élie finira en se rompant la nuque, en apprenant que l'arche du Seigneur a été prise dans la guerre, et il tombe foudroyé. Lui aussi a commis un péché qui conduit à la mort. Prenons maintenant le dernier exemple, celui de Saül. C'est maintenant un roi. Un roi qui règne sur Israël, le premier de ses rois. Vous lisez cela dans le chapitre 1er de Samuel, chapitre 9, versets 1 à 2. C'est un roi très grand, il est très beau, il a une tête de plus que tous les fils d'Israël. Et c'est Samuel qui l'oint pour roi, Samuel le prophète, mais qui lui donne des ordres très précis qu'il doit observer s'il veut plaire au Seigneur. Mais que fera le roi Saül? Eh bien, il pensera que, oui, c'est vrai, Dieu a dit cela, mais je peux faire peut-être quand même un peu différemment. Et c'est ainsi que Saül sera rejeté. Quand il apprend qu'il est rejeté parce qu'il a péché, que dit-il à Samuel? Eh bien, cache la chose devant le peuple. J'ai péché, mais honore-moi en venant en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me présenterai devant l'Éternel, ton Dieu. Il veut camoufler, il veut que Samuel camoufle sa faute. Et c'est dans ce fameux passage, et que Samuel lui dit au verset 22 du chapitre 15, « L'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Bien, voilà un exemple que je voudrais que vous puissiez éviter. Souvenez-vous qu'on peut être prophète. Souvenez-vous qu'on peut être sacrificateur. Souvenez-vous qu'on peut avoir été oint comme roi et pourtant pécher contre le Seigneur. Et souvenez-vous de ce quatrième exemple, le serviteur du prophète Élisée, Géasi, qui a eu l'occasion de voir son maître Élisée accomplir plusieurs miracles et entre autres une résurrection, et qui ensuite a assisté à la purification d'un général syrien, Naaman, qui est venu voir Élisée et qu'Élisée a guéri en l'envoyant se tremper cette fois dans le Jourdain. Alors, Naaman, reconnaissant, veut offrir de l'argent à Élisée, le prophète. Élisée refuse. Je vous lis ceci au verset 15. Naaman, donc guéri, retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Mais voici toutefois ce que je te prie. Je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, donc le roi de Syrie, entre dans la maison de son dieu, de Rimmon, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » Il ne lui dit pas, « Tu ne dois plus le faire. » Il le laisse, confiant dans le Seigneur.
Alors, lisons la suite, et c'est par là qu'il termine. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Le Syrien le vivant, je lui courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tu vas-tu bien ?» Il répondit, « Oui, tu vas bien, mais mon maître m'envoie à te dire. » C'est quoi ça? C'est le mensonge, hein? « Mon maître m'envoie à te dire, voici, il vient d'arriver chez moi, des jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, dans les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et des vêtements dressants. » Naaman dit, « Consent à prendre 2 talents. » Il le pressa, il fera 2 talents d'argent. Dans 2 sacs, donna 2 habits dressants. Et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans sa maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, comme nous allons nous présenter à la table du Seigneur. Puis il alla se présenter à son maître. Et Élisée lui dit, « Où viens-tu, Géasi ?» Et il répondit, « C'est un homme de Dieu. Hein. Son serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Voilà dans quelle situation on se met. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre les vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence de Dieu avec une lèpre. On ne se moque pas. J'espère que vous lirez l'Ancien Testament. J'espère que vous y trouverez autre chose que des histoires de notre peuple et de notre âge. Mais qu'à chaque page, vous direz, Seigneur, qu'as-tu à m'apprendre par cet homme? Qu'as-tu à m'apprendre à moi en 1980 par ces circonstances? Car les temps changés, la parole de Dieu demeure. Et je dis pour introduire notre culte d'adoration et que ces textes soient lus, ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens au sujet de la célébration de la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire de la Sainte Cène, comme nous l'appelons dans nos milieux. Paul n'avait pas été là lors de l'institution de la scène dans la nuit de la Pâque. Mais il nous dit au verset 23 du chapitre 1, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et il est ajouté, c'est le verset 30 que je lis aux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Élie ne s'est pas jugé. Il a laissé faire ses enfants. Il est mort. Saül ne s'est pas jugé de son péché. Et même quand il priait et que l'Éternel ne lui répondait pas, il est allé consulter une pythoniste. Une voyante, alors cela était interdit par le Seigneur d'évoquer les esprits. Il ne lui répond pas, alors il évoque les esprits dans une certaine nuit, la nuit avant sa mort. et il mourra le lendemain sur cette montagne de Gilboa que j'ai vu aussi de mes yeux la semaine dernière. Montagne de Gilboa qui n'est plus de rosée sur elle. Saül y est tombé avec Jonathan. Un roi qui ne s'est pas livré. Un sacrificateur qui ne s'est pas livré. Un prophète Balaam qui ne s'est pas livré. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça? Bien non. Je ne vous dis pas de ne pas vous approcher de la table du Seigneur. Je vous dis approchez-vous, mais vivez-vous vous-même. Géasi ne s'est pas livré. Il a osé mentir. Il a osé se présenter devant le Seigneur. C'est pas le Seigneur à faire. Le Seigneur ne repoussera personne à sa table. C'est pas notre table, c'est la table du Seigneur. Mais ce qu'il nous demande, c'est que nous nous éprouvions nous-mêmes et que personne ne puisse simplement faire un geste. Vous voyez, j'étais aux Philippines avec ma femme il y a 2 ans, je crois, et j'ai vu des gens dans une église qui s'approchaient pour la communion, qui prenaient l'hostie, là, puis qui s'en allaient, qui allumaient immédiatement leurs cigarettes. On sentait que c'était quelque chose de mécanique. Comment voulez-vous que ces gens discernent le corps et le sang du Seigneur? On communiait là, sous une seule espèce. Mais ici, nous cherchons à revivre ce temps du Seigneur où la communion était réellement donnée sous les deux espèces, comme on essaye maintenant de remettre cette communion sous les deux espèces dans beaucoup d'églises et même dans l'église catholique. Mes amis, nous ne voulons pas être légers ce matin, cet après-midi, mais nous voulons prendre la parole au sérieux et nous juger nous-mêmes pour que personne ne puisse, par un acte inconsidéré, boire et manger un jugement contre lui-même. Car il est dit ceci, verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et le dernier texte que je lis concernant la table du Seigneur, c'est au chapitre 10 de la même épître. Chapitre 10, épître aux Corinthiens, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, comme nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que disent-ils? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Eh bien, que le Seigneur nous garde. Et que nous puissions comprendre que nous sommes vraiment, si nous lui appartenons, si nous lui avons donné notre cœur, et si nous nous sommes jugés du péché que nous avons pu discerner dans notre cœur, en lui disant, Seigneur, c'est vrai ce que tu as dit. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Je m'en juge, je te le confesse, je m'en humilie. Alors, approchez-vous. Ce repas est pour vous. Vous vous êtes jugé vous-même. Mais souvenez-vous que si vous êtes en communion à la table du Seigneur, vous ne pouvez pas retourner à la table des démons. Quelle est cette table des démons? C'est la table qui est dressée dans le monde, où quotidiennement, les gens peut-être que vous connaissez aiment à se repaître de tout ce que le monde peut offrir, quelle que soit la corruption de ces choses. Je ne peux pas goûter à ces détails. Jusqu'à temps que vous des deux côtés, si l'Éternel est Dieu, suivez-le, si c'est Baal, courez après lui. Mais comprenez une chose, on ne peut pas servir de maître, ou bien vous êtes tout entier pour le Seigneur, ou bien vous allez avec le monde. Mais le Seigneur vous dit, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Puissiez-vous croire en sa parole et goûter à l'efficacité de son nom. Amen. Maintenant,